Bonjour à tous, merci d'être là. On a eu des beaux chants, hein? Le premier était spécial en plus, hein? Je pense qu'il va amener le message sur ce sujet-là. Bâtir sa vie sur Jésus. Bâtir sa vie sur Jésus. Hein? On va nous mettre les choses à l'écran. On voit que cette maison-là hein, est bâtie sur... Ses fondations sont sur du solide, hein? Du roc. Fait que la tempête-là qui arrive, là, ça va pas venir ébranler ses fondations, c'est sûr. Et on voit que les gens ont allumé la lumière, les ténèbres vont venir tantôt la nuit, mais ils sont en sécurité dans la maison malgré cette grosse tempête. Nous autres aussi, quand notre vie est fondée sur Jésus-Christ, les ténèbres peuvent venir, les tempêtes peuvent venir, la fondation elle va toujours rester solide. C'est pour toujours se rappeler ça. L'importance de bâtir sa vie sur Jésus. On va prier. Merci Seigneur, cet amour que tu nous manifestes à chaque instant. Merci Seigneur d'avoir un jour où on était tous dans les ténèbres, nos fondations c'était sur le sable. On t'a ébranlé à la moindre épreuve, Seigneur. On t'a ébranlé. On se dirigeait tous ensemble, Seigneur, vers le chaos, vers l'éternité sans toi. Un jour, tu t'es présenté devant nous et la lumière s'est fue, Seigneur. La lumière est apparue dans notre cœur et on t'a accepté comme sauveur. Merci, parce qu'aujourd'hui, on est maintenant enfant de Dieu. On fait partie de ta famille, Seigneur. À chaque jour, tu es là pour nous protéger. On t'en remercie. Amen. Matthieu 7, 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, un peu comme notre chanson tantôt. Hein? Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus dit que l'homme prudent n'est pas celui qui fait rien. Hein? Ce n'est pas l'homme qui se tourne les pouces à journée longue qui fait rien, mais c'est l'homme qui se prépare pour les tempêtes. On a eu des tempêtes, puis on va en avoir encore. Seigneur dit, il faut se préparer pour les tempêtes qui vont venir. Donc, il définit l'homme par trois actions au moins. Il écoute la parole de Dieu. C'est bien d'écouter hein, ce que Dieu nous dit. Il la reçoit, puis il applique dans sa vie ce que Dieu lui a donné. Donc, il transforme ce qu'il a reçu en acte de foi qui sont visibles pour les gens qui sont autour de lui. Quand il arrive une épreuve dans sa vie ou dans sa famille, les gens voient que cet homme-là n'est pas ébranlable facilement. As-tu vu la grosse épreuve qu'il a eue, puis il a resté debout. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas critiqué. Sa foi est prouvée par ses œuvres. Il regarde à Dieu et il n'est pas ébranlé. Dieu ne dit pas de regarder, il ne dit pas « regardez-moi bâtir, vous autres restez assis ». Maintenant, il ne nous dit pas non plus « débrouille-toi tout seul », ce n'est pas ça que Dieu dit. Jésus est le maître d'œuvre. C'est lui qui bâtit son Église. On voit ça dans Matthieu 16, 18. Mais la Bible nous montre que Jésus se sert des hommes qui sont disponibles pour travailler avec lui. Il appelle ça des co-ouvriers avec le Seigneur. On voit ça dans 1 Corinthiens 3, 9. On est là, à l'œuvre, avec le Seigneur, des co-ouvriers. L'ouvrier qui travaille selon les plans de Dieu, ça tient bien. C'est du solide. Ça va être solide. On a sorti un plan par Internet. Ils nous ont sorti un plan pour faire l'escalier au bord. On veut changer ça, là. Ils ont donné toutes les mesures, puis ils nous ont montré pour comment que ça soit solide. Quand tu bâtis, selon le plan de Dieu, ta vie, c'est du solide. Mais celui qui veut faire suivre ses propres plans dans sa vie, Là, ça va aller moins bien, ça risque de finir tout croche, hein? Puis ça va être ébranlable. La direction doit venir de Jésus. C'est lui l'architecte de notre vie. Si on pense que nos plans sont bons, on se trompe énormément, énormément. Bâtir sa vie sur Jésus, c'est quoi? Premièrement, ça signifie qu'on doit se reconnaître pécheur. Sauf, je pense que tout le monde est capable de reconnaître ça. On commet tous des péchés, hein? Se repentir et accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Ça, c'est le point de base. Bâtir sa vie sur Jésus, il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Après ça, on met cette parole de Dieu-là en pratique, ses enseignements qu'on a reçus. On lui fait confiance dans notre vie quand il arrive des problèmes, et c'est là qu'on est stable, on est plus stable. Jean 13, 17. Jean 13, 17 est écrit, si vous savez ces choses, les choses sont écrites dans la parole de Dieu, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Si on veut être heureux, Seigneur dit, mets en pratique ma parole. Donc, l'homme sage bâtit sa maison sur Jésus. On dit, il va chercher à appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Donnez des exemples. Si quelqu'un l'offense, quelqu'un qui a fait du trouble, comment il va réagir, l'homme qui est fondé sur la parole de Dieu? Comment il va réagir? Hein? Est-ce qu'il va choisir de nourrir la rancune? Ah, celui-là, là, je ne l'oublierai pas. Ah, je vais être pogné dans le détour. Hein? Il va me payer ça. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il va se nourrir de la rancune? Non. Il va se nourrir de la parole de Dieu. Il va voir ce que Dieu dit dans sa parole et il va mettre ça en pratique envers cet homme qui a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé. L'inquiétude vient dans tes pensées. Mais là, ça t'inquiète aussi. Comment qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Quand l'inquiétude vient dans l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il remet ça dans les mains du Seigneur. Au lieu de paniquer, poigner, comme qu'on dit, hein? Matthieu 11, 28, est écrit là. Le Seigneur, c'est ça qu'il dit. On a toute la parole de Dieu pour nous guider dans ce temps-là. Une tentation arrive. Comment agir? La parole de Dieu nous dit comment agir aussi. Si c'est une passion de la chair, c'est écrit, fuis des passions de la chair. On voit ça, entre autres, Genèse 39, 12. Si c'est une ruse du diable, le Seigneur dit, résiste-lui avec une foi ferme. Il sait comment agir. La parole de Dieu est son guide. Il te pardonnera, même quand cela, ça fait mal. Ah, j'ai de la misère à t'y pardonner. Seigneur va t'aider. L'Esprit, il nous aide. On ne peut pas le faire par notre propre force, mais Seigneur va nous aider dans ce moment-là. Il dira la vérité, même si ça coûte. Ah, mais si elle dit, ça va nous coûter cher. On dit la vérité. Seigneur veut qu'on parle avec vérité. Alors, la vie de cet homme-là est stable. Est stable. L'homme sage enligne sa vie sur Jésus. Il faut savoir où qu'on s'enligne dans la vie, hein? On enligne notre vie sur Jésus. Il cherche la volonté de Dieu dans ses choix. Il prie, Seigneur, guide-moi. Il écoute avant d'agir. Ça, c'est bon d'écouter avant d'agir, hein? Il demeure enseignable. Ainsi, sa vie spirituelle grandit. Voilà le plan que Dieu a pour chacun de nous. Si on agit de même, notre vie, elle va être beaucoup plus stable. On va être moins ébranlé. Dieu nous donne la formule pour être ébranlé. Matthieu 7, 26 et 27. Là, on va voir l'inverse. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. C'est tout un mot, hein? Qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Qu'est-ce qui s'est produit? Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous savons ce qui arrive à une maison sans fondation bâtie sur le sable. On connaît un peu la construction. Quelqu'un qui est bâti à terre, comme qu'on dit, là, sur le sable, on sait qu'est-ce qui se produit. Il y en a, on va mettre la photo numéro 2. regardez, quelqu'un qui était insensé. Il dit, moi, je vais être proche de la plage, je vais bâtir ma maison à terre, on aura une belle vue. Il a bâti sa maison-là. On appelle ça quelqu'un qui est, si on a la Bible, il est insensé. Les tempêtes l'ont fait basculer. Les murs, les plafonds, ben, on peut dire que ce sont vraiment fissurés, hein. Les planchers, dans ça, on peut penser que c'est tout de dénivelé, hein. C'est vraiment pas au niveau, là. Les portes et les fenêtres, il reste plus grand-chose, hein. Il reste plus grand-chose. Ils sont tous démolis. On peut dire que les dégâts sont majeurs. Pensez-vous que c'est agréable vivre dans une maison comme ça? C'est pas agréable du tout, hein. La personne qui a construit sur le sable, le Seigneur nous donne un exemple pour nos vies. Donc, c'est pas juste pour les maisons matérielles, c'est aussi pour notre vie spirituelle. Sur quelle fondation ma vie est-elle bâtie? Est-ce que je peux dire que ma fondation est solide? Si j'arrête, je réfléchis à ma vie. Est-ce que je peux dire que ma vie est bâtie sur Jésus? Sincèrement, dans mon cœur, je peux dire Jésus, c'est ma vie. C'est mon sauveur. Nous connaissons tous des gens dont la vie était bâtie sur eux-mêmes. Beaucoup de gens autour de nous n'ont pas la foi. Ils ne croient point en Dieu. Donc, ils ont bâti leur vie sur leur capacité. Moi, je suis capable, je vais me débrouiller par moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Ils ont bâti leur vie sur leur argent, sur leur sagesse. C'est sûr qu'à premier abord, pour un certain temps, on peut dire, waouh, lui a réussi sa vie, hein. L'as-tu vu aller? L'as-tu vu aller? De l'extérieur, ça pourrait être beau. Il fait de l'argent. As-tu vu la maison puis toutes ces choses-là? Les voyages qu'ils font, ils ont plein d'amis. Mais la fondation était fragile. Le cœur de l'homme, il est instable. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Ça, on voit ça dans Jérémie 17, 9. Un jour, la maladie a frappé ce couple-là. Ça l'a affaibli. La maladie, quand elle arrive dans un couple, souvent, ça affaiblit. Ça demande de l'énergie. Faut que tu sois vraiment solide comme fondation. Puis, il y a eu la perte d'emploi. Là, ça a amené des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent, souvent, ça amène des gros problèmes dans le couple. Si tu n'es pas bâti sur le roc, là, tu te poses des questions. Les enfants furent rebelles. Ça a amené des complications, des conflits dans le couple. Ce couple-là qui avait de l'argent, puis tout allait bien. Ils se pensaient fort. Ce couple qui paraissait avoir réussi, ben, ils ont divorcé. Comment qu'il y en a autour de nous? Il manque de loyer. Pensez pourquoi donc il manque de loyer? C'est une des raisons, hein. Bâtir sa vie sur soi-même, c'est croire que je suis autosuffisant. Je suis capable de me débrouiller sans Dieu. Moi, je contrôle ma vie. Mes ressources, s'il m'arrive des problèmes, mes ressources vont me sauver. J'ai un gros compte de banque, j'ai des amis, j'ai des contacts, je vais passer à travers. Mais si on regarde autour de nous, il y en a beaucoup qui ne passent pas à travers, hein. Il y en a beaucoup qui ne passent pas à travers. Ils ont mis leur foi en eux-mêmes. Tôt ou tard, la vie nous montre que nos forces, notre santé, ça a des limites. Notre argent ne protège pas tout. Notre cœur a besoin de plus que ce que le monde nous offre. Il n'y a rien de vraiment stable dans le monde. Le Seigneur dit, ça va tout ébranler, ces choses-là. Jésus ne condamne pas les capacités, les biens, tout ce qu'on a. Dieu ne condamne pas ça. Il n'est pas contre ça. Il met plutôt le doigt sur le fondement. Sur quoi repose ma vie? Sur mes propres capacités ou sur le Seigneur? Faut arrêter puis réfléchir, hein? Faut arrêter et réfléchir. Bâtir notre vie sur Jésus, ce n'est pas rejeter ce qu'on a, mais de ne pas se reposer sur nos talents, sur nos possessions, comme la base ultime de notre vie. Jésus doit être le fondement de ma vie. 1 Jean 2, 24. Le Seigneur prend des mots quand même assez, assez durs. Hein? Celui qui veut bâtir sa vie sur lui-même, le Seigneur dit c'est un insensé. Faut allumer, il faut parler aux gens qui sont autour de nous, les avertir. Bâtis pas ta vie sur un sable. 1 Jean 2, 24. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis. On est c'est du solide dans ce temps-là. Au Fils et au Père. Ben, vous en avez une petite histoire. Comme ça, des petites histoires, des fois, ça nous aide à comprendre. Yolande, on va mettre la photo numéro 3. Ici, ce n'est pas la même Olivia qu'on prie, c'est une autre Olivia. Regardez bien ce que ça fait, un couple que sa vie est bâtie sur le Seigneur. Dans une petite maison de campagne, un homme nommé Luc vivait avec sa femme. Il avait bâti une vie simple et paisible, et surtout une foi sincère en Jésus. Les autres aimaient vraiment Jésus. Leur confiance était toujours sur Jésus. C'était reconnu dans l'alentour, c'était un homme, un couple de foi qui aimait Dieu. Luc n'était pas parfait. On n'est pas parfait dans notre marche, on n'est pas parfait. Mais il avait un choix, il avait fait un choix dans sa vie. Sa vie était bâtie sur Jésus et non sur lui-même. Ma vie, c'est Christ. Comme Paul dit, moi, vivre, c'est Christ. Il vivait pour le Seigneur. Il était reconnu pour un homme de foi. Puis un jour, tout a basculé. Sa femme, Olivia, est tombée gravement malade. Au début, il priait avec confiance. Puis les semaines sont devenues des mois. Ça guérissait pas. Elle guérissait pas. Et l'espoir a commencé à s'affaiblir. Ça faisait des mois, là. À un moment donné, Luc, il disait, ma femme, elle va-tu guérir un jour? Elle va-tu guérir? Vous savez que ça fait longtemps, là. Tu cours à l'hôpital, tu sors, tu rentres, tu ressors. Un jour, ma femme, elle va-tu guérir? Il y en a qui connaissent ça, ici, hein? Une nuit, Olivia était à l'hôpital en salle d'opération. Là, ça n'allait pas bien. Luc était seul, salle d'attente, il attendait. Dans son cœur, il criait à Jésus. Il était épuisé. Pour la première fois, il dit, « Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. » Avec cœur lourd. Peut-être que ça vous est arrivé, hein? « J'ai placé ma foi, ma confiance en toi. Je te suis sur le chemin que tu m'as tracé. Mais depuis des mois, tout s'écroule autour de moi. Tout s'écroule autour de moi. Ça branle de partout. Ça branle de partout. » Il était vraiment triste. Luc, vous savez, aurait pu tomber dans la colère puis dire, « Moi, j'abandonne. J'arrête de te suivre, Seigneur. » Mais au fond de lui, il y avait quelque chose qui le tenait. Ce n'était pas sa force. Ce n'était pas parce qu'il était plus courageux qu'un autre homme. Mais Jésus était sa fondation. Le Seigneur dit, « Nul ne va les ravir de ma main. » Il n'avait plus de force, mais c'est Dieu qui le tenait. Vous savez, il est comme les pas dans le sable. Vous avez vu cette petite... C'était le cas de Luc. Il ne marchait plus, Luc, là, mais Dieu le tenait dans ses mains. Alors, cette nuit-là, il a murmuré, « Jésus, même si je ne comprends pas rien, pourquoi ça nous arrive, je sais que la vie d'Olivia est entre tes mains. Que ta volonté se fasse, Seigneur. » Quelques heures plus tard, Olivia a le rejoint Jésus et est décédée. Mais Luc ne s'est pas écroulé. Il a traversé la tempête et il est resté debout. Pourquoi? Pourquoi qu'il est resté debout? Puis il y a tant d'hommes qui s'écroulent à ce moment-là. Pourquoi? Car sa vie n'était pas bâtie sur le sable, mais sur Jésus, qui était la fondation de sa vie. Pensez-vous que celui qui a tenu Luc dans ses mains, dans ces moments terribles, pensez-vous qu'il est capable de nous tenir aussi? C'est sûr. L'homme sage bâtit sa maison et se prépare à la tempête. Un jour ou l'autre, ma femme va partir ou c'est moi qui vais partir. On va tous se quitter un jour ou l'autre. C'est sûr, il faut se préparer aux tempêtes. Ça peut arriver aujourd'hui. Il faut se préparer. Il faut être vraiment solide pour se tenir dans la parole de Dieu. Quand ça va mal, allez voir qu'est-ce que Dieu nous dit. Le Seigneur va toujours nous tenir. Mais il faut se préparer aux tempêtes. En plus, on est une église vieillissante. Un jour, ça va nous arriver. Matthieu 26, 33. On voit Pierre. Pierre est un homme sûr de lui, hein, au début. Pierre prit la parole et lui dit à Jésus, même si tous les autres t'abandonnent, sont pas forts les autres, là. Hein, ils sont faibles. Moi, là, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Mais c'est un homme qui était sûr de lui, hein. Au début de sa vie, Pierre n'était pas un homme stable. Il était impulsif. Il se voyait fort. Sa vie était fondée sur ses capacités. Il avait confiance dans sa force et dans son courage. Moi, je suis fort. Probablement qu'il l'était aussi. Mais d'agir de même, on sait, ça lui a attiré beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais un jour, Pierre a vu comme dans un miroir sa faiblesse. Quelques heures après avoir dit ces paroles, moi, Seigneur, c'est les autres qui s'en allent. Moi, non. Il va s'effondrer en reniant trois fois Jésus devant une femme, une simple servante. Pas un soldat à rien, là. Une femme, tout simplement, une servante. Ce qui lui manquait, ce n'est pas un manque d'amour envers Jésus. Il aimait Jésus. Mais c'était que sa vie était fondée sur sa capacité. Je suis capable. Mais le jour où il a été brisé en reniant Jésus, il a compris que la transformation vient quand on dit une phrase semblable à ça. Seigneur, fais en moi ce que je ne peux pas faire de moi-même. C'est là qu'il faut arrêter et dire ça au Seigneur. Seigneur, fais en moi ce que je ne peux pas faire moi-même. C'est là que ça change les choses. Pierre a laissé Jésus agir. Alors, par Jésus, sa vie fut transformée de jour en jour. Il ne fut pas le même homme. Lorsqu'il est arrêté et jeté en prison, Pierre reste inébranlable. La menace de mort était plus évidente à ce moment-là que celle de la petite servante qui lui a fait peur par ses mots. Mais cette fois-là, sa maison, la vie de Pierre, ne s'est pas écroulée comme lors de la servante qui est partie là, puis tout triste était écroulé. Là, il est devant cette menace-là, il était en prison, il est resté inébranlable. On voit ça dans Actes 12, 6. Il est écrit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, qu'est-ce qu'il faisait? Il était tué, tout ébranlé, il avait peur, il va nous tuer. Il dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. On voit Pierre qui dort paisiblement en prison, enchaîné la veille probable de son exécution. C'était pas Hérode, là, c'était pas. On rentre pas dans sa vie, mais c'était pas un gentil, ça. C'est sûr qu'elle a dû passer. C'est sûr. Mais lui, il dort. Il dort paisiblement. Ça, c'est d'être bâti sur un solide, hein, sur Jésus. Hein. Il n'est plus le même homme. Il est maintenant solidement établi dans la foi en Jésus. Il y avait une grosse différence dans sa vie. Il y avait une grosse différence dans sa vie. Hein. La tempête n'a pas renversé sa paix. Parce que la paix de Jésus habite maintenant en lui. C'est la puissance de l'Esprit qui le tient debout et non ses forces. C'est pas par lui-même qui est resté debout, là. C'est la parole de Dieu qui a mis sa confiance en Dieu. Peu importe si je meurs là, je rentre dans la présence de Dieu. Il pouvait dormir. Dans quelques instants, il va rentrer dans le royaume de Dieu. Certains qu'il devait avoir hâte en plus, hein. C'est-à-dire, non, tu vas continuer à courir, tu peux. Il devait avoir, hey, c'est la différence totale, une différence totale. Psaume 127.1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Ici, ce n'est pas une incitation à la paresse que tu nous parles. Quand on parle de bâtir dans ce verset-là, puis de garder. Mais il s'agit de travailler avec Dieu, plutôt qu'à s'épuiser dans l'activisme, à se lever tôt, à se coucher tard et à manger le pain de la douleur. Il y en a qui travaillent, mon ami, ils travaillent, puis ils mangent toujours le pain de la douleur. D'agir selon le plan que Dieu a pour nous. Dieu veille sur nous, il va veiller. J'agis selon le plan de Dieu. Je ne m'excite pas, je ne mangerai pas de pain de la douleur. Je vais agir comme Dieu me dit d'agir. Un jour, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Noé l'a construit selon le plan de Dieu. Ça a été long, hein? Mais on voit qu'il ne s'énervait pas. Et le monde, il venait, puis essayait de le faire énerver. Noé, il dit, moi, je suis le plan de... Il n'a jamais plu, Noé! Mais Dieu me dit de construire ça, je construis ça. Et ça a tué de bien été. Il a construit l'arche. Il a demandé à Moïse, Dieu, de conduire son peuple. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Et Moïse a conduit. C'était énervé. Ici, une fois, ça y est arrivé, je pense, hein? Quand il a frappé le rocher. Mais j'ai marqué que c'était l'homme le plus patient de la terre. Il a demandé à Josué de marcher autour de Jéricho. C'est quoi qui est arrivé au mur de Jéricho? Ils ont écroulé, hein? Ils ont-tu frappé les murs avec des... Non, hein? Ils ont juste fait des tours, ils ont juste fait le plan de Dieu. Et ça a bien marché. À Néhémie, le Seigneur a demandé de bâtir les murailles de Jérusalem. Et qu'il y a eu de la misère. Les gens voulaient, mais Néhémie, regardez le plan de Dieu, et ça s'est déroulé comme Dieu lui avait dit. Tous des bels exemples pour nous autres, hein? Tous des bels exemples. Comme eux, nous travaillons aussi, mais c'est Dieu qui donne la force, la protection et le fruit. Leur vie n'a pas été bâtie par leur force, mais en marchant chaque jour avec le Seigneur, en suivant le plan de Dieu. Il y a tellement de bels exemples dans la Bible, hein? Un jour, Marthe, Jésus rentre à la maison de Marthe et Marie et Lazare. Marthe était absorbée par son travail. Et elle se tapait ça, hein, on peut dire dans nos mots. Elle voulait, elle était comme un balai. Elle se promenait partout dans la maison. Elle voulait que ça soit bien fait, la table bien mise, les belles assiettes. Puis là, elle courait d'un bord pour l'autre. Hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé en agissant par ses propres forces? Elle finit fatiguée. Et à critiquer sa sœur. Elle s'est épuisée et à critiquer sa sœur. On peut dire dans notre sens, dans nous autres, hein, en québécois, dans des mots qu'on peut dire qu'elle a dit à Jésus, pourquoi tu ne dis pas hein, qu'elle grouille un peu, elle-là, qu'elle vienne m'aider? Dans nos mots, on dirait ça de même. Hein. Dis donc qu'elle se grouille un peu, qu'elle vienne m'aider. Regarde l'ouvrage qu'elle a à faire. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Ta sœur a choisi la bonne part. Là, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Et un jour, ce sera le temps de faire ton manière. Mais là, je suis là. Écoute la parole de Dieu. Arrête de t'agiter pour rien. Des fois, on est un petit peu de même. On court d'un bord puis de l'autre. On ressemble au balai. Hein? Tout ramasser. Tout ramasser. Son agitation. Qu'est-ce que ça a produit? L'éloignait de sa relation avec Dieu. Elle n'écoutait pas le Seigneur parler. Et ça l'est éloigné de sa relation avec sa famille. Ça nous parle-tu un peu, ça? Quand on s'agite, on s'éloigne de notre relation avec Dieu. On s'éloigne de notre relation avec notre famille. Ça ne marche plus maintenant, ça poigne avec notre famille. Pourquoi donc? Pourquoi que ça poigne? Peut-être qu'on ne suit plus le plan de Dieu, hein? Le Seigneur approuve notre service quand il est une réponse à son amour et qu'il est dirigé par lui. On ne sert pas Dieu par obligation ou par pression. mais de bon cœur, parce que notre cœur déborde d'amour et de reconnaissance pour lui. On a vu Noé tantôt, tous ces hommes-là, Abraham, ils ont servi de bon cœur. Tout ce que vous faites, le Seigneur dit, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non comme pour des hommes. Le dernier verset, Jean 15, 4. Il est écrit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est simple. Hein? Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. J'ai la dernière photo, Yann, on va la mettre à l'écran. Ça nous donne une petite idée un peu. Merci. Le serment ne produit pas de fruit en se contractant, en forçant au point que ses branches deviennent toutes croches. On sait ça, hein? Pensez-vous qu'il dit là, il faut porter du fruit. Il faut en porter. Tu vois ses branches en croche. Pensez-vous que c'est le même qui porte du fruit? Elle dit aujourd'hui, il faut porter du fruit. Le matin, il avait tout nerveux, là, puis là, il se contracte. Là, les branches deviennent toutes croches. C'est-tu le même? Moi, je n'ai pas vu ça encore. Vous voyez un saut ou un pommier, peu importe. Hein? Il produit du fruit par connexion. Par connexion. Il reçoit de Dieu et il donne. Il reçoit de la sève, il la donne. Il reçoit et il donne et le fruit apparaît. C'est pas parce qu'il a forcé toute la nuit, puis le matin, il dit là, mais hey, faut mon maître, il faut qu'il soit heureux. Non. Il a reçu, il a donné. Nous aussi, l'on produit du fruit à la gloire de Dieu par connexion. La même affaire. On prie, on lit la parole de Dieu, on se réunit quand Dieu nous demande de nous réunir, on marche en l'écoutant, en l'obéissant, et notre vie se transforme. C'est comme ça. C'est tout ça. On n'a pas affaire à se contracter, puis venir croire, puis s'énerver comme Marthe s'énervait tantôt. Hein. Tout commence par une connexion avec Dieu. En lui, nous trouvons notre raison d'être. Notre vie, notre maison se transforme de jour en jour à la ressemblance de Jésus. C'est comme ça qu'il nous dit d'agir. Et c'est comme ça le plan de Dieu. Fait que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Hein? Amen.
Amen. Merci.